Il est 18h01, vous êtes bien sûr Radio Campus Angers, tout de suite embarqué à bord de l'Optimiste.
La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30,
voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Optimiste. Et oui, l'Optimiste comme le bateau. Ce soir, je serai votre capitaine et ce sera sans crochet, malheureusement, que je vous emmènerai à bon port. Au menu, ce soir, l'interview de Juliette Seyer et Mathilde Degnaud, deux étudiantes en master d'études sur le genre à l'Université d'Angers. Elles organisent la table ronde Genre et Médias qui se tiendra le 24 mars à 18h30 à la parenthèse à Belbeille. Une interview où on a mis le paquet techniquement puisque Mathilde Degnaud est actuellement à Tunis, donc on a fait ça par Zoom. Attention les oreilles, ça décoiffe. En fin d'émission, on retrouvera notre barreuse, celle qui garde toujours le cap en toutes circonstances, évidemment, qui d'autre que Sophia. Salut Sophia.
Salut Hugo.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh ben d'un film que j'ai vu au 4 à l'Université d'Angers, toujours dans le cadre du mois du genre. Ça s'appelle L'homme qui répare les femmes.
Et ce sera en fin d'émission. Tout de suite, l'Optimiste largue les amarres. C'est parti. Je vous laisse écouter l'interview de Juliette Seyer et Mathilde Degnaud, réalisée un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi. Bonsoir Juliette Seyer et Mathilde Degnaud.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes toutes les deux étudiantes en master d'études sur le genre à l'Université d'Angers et vous organisez la table ronde Genre et Médias qui aura lieu le 24 mars à 18h30 à la parenthèse à Belbeille. Et pour aborder ce sujet, vous avez invité à cette table ronde Lénaïque Bredoux, responsable éditoriale aux questions de genre à Mediapart, Clémentine Labrosse et Paola Séraphin pour Sensor Magazine, et enfin Juliette Cotin, fondatrice de l'association angevine Babes Voices, qui produit le podcast féministe The F Club, diffusé par ailleurs sur notre antenne Radio Campus Angers. Cette table ronde est organisée dans le cadre du mois du genre à l'Université d'Angers, et ce sera un débat sur la façon dont les questions de genre sont intégrées dans les médias grand public, mais aussi dans les médias féministes. Sur le site internet du mois du genre, vous dites que les médias participent à la reproduction et au maintien d'assignations de genre, et qu'il s'agit là d'interroger la fabrique du genre au travers de sa négociation. Qu'est-ce que vous entendez par négociation ?
Aujourd'hui, on sait, il y a pas mal d'études, etc., qu'on voit que les médias ont un rôle dans la production et la reproduction du genre. Après, on ne sait pas trop dans quelle mesure les médias reproduisent ce que l'opinion pense ou construisent l'opinion. C'est toujours un peu la question du serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un rôle important des médias dans la construction, et notamment sur les questions de sexisme, etc. Les médias ont un rôle important. Et sur le choix du terme négociation, là, c'était dans la façon, c'est ce qu'on va aborder dans la table ronde, en fait, c'est la manière dont on intègre le genre dans les médias, comment on le questionne, quelle stratégie on aborde. Et donc là, les deux points de vue qu'on va avoir, c'est soit donc Lénaïque Bredoux qui est dans un média mainstream, grand public, donc Mediapart, et qui intègre les questions de genre dans les sujets de manière transversale, ou alors comme Sensor, donc une des fondatrices qui sera là, qui va interroger le genre, mais de manière indépendante et vraiment spécialisée sur ces questions-là. Donc c'est vraiment une revue féministe. Et donc c'est deux stratégies différentes qui vont un peu à leur manière intégrer le genre, négocier, etc. Et donc, en fait, on va interroger ces deux manières d'intégrer le genre. Ce n'est pas forcément un débat dans le sens où il n'y a pas de pour ou de contre. Mais en tout cas, on va mettre en discussion ces deux points de vue avec les limites, les intérêts, ce qui est d'intéressant dans ces deux stratégies, en tout cas, pour intégrer le genre dans les médias.
Est-ce que vous pourriez expliquer vraiment ce terme de négociation ?
Je l'entendais dans le sens la manière dont elles vont. Enfin, le terme de négociation ici, il signifie vraiment quelle stratégie avoir pour intégrer le genre, en fait. Comment négocier cette intégration du genre, parce que c'est pas forcément inné. t'as dit quoi ?
C'est comment interroger ces questions-là, et c'était un terme de négociation dans le sens comment intégrer le genre dans les médias, en fait. Je pense que c'est surtout ça, et notamment à travers la création de revues, du coup, typiquement féministes, donc Censored, ou alors la négociation de pouvoir intégrer ces questions-là dans les médias mainstream, et du coup, à travers Mediapart.
C'est-à-dire que selon vous, quand on est dans un média mainstream, par exemple Mediapart, mais on reviendra pour questionner le fait que Mediapart est un média mainstream, il y a besoin de négociations internes au sein de la rédaction pour faire arriver les questions féministes et d'égalité de genre au sein de la rédaction.
Alors oui, je pense déjà, mais on pourra voir ça vraiment avec Lina Bredoux le jour de la table ronde, pour revenir là-dessus. Après, sans forcément se centrer sur Mediapart, tous les médias, en fait, le terme de négociation, il a du sens dans le sens où aujourd'hui, faire émerger les questions de genre et de féminisme, c'est toujours une négociation. Enfin, c'est très rare les endroits où ça, où ça émerge de manière 100% naturelle, sans aucune discussion. C'est pour ça que ce terme-là de négociation, voilà, il s'est montré que c'est un rapport de pouvoir aussi, puisqu'il s'agit de pouvoir faire émerger ces questions-là et de les mettre sur le devant de la scène, et en l'occurrence en une des magazines pour les questionner. Mais...
Par ailleurs, vous parlez du rôle des médias dans la construction des normes sur le site Internet, mais vous venez de le redire. De manière succincte pour nos auditeurs de Radio Campus Angers, quelles sont les normes que construisent les médias?
Alors, c'est peut-être. Enfin, là, je peux pas. Enfin, je sais pas si on peut répondre à ça en quelques minutes d'interview. Mais on sait que voilà, les médias ont un rôle important, notamment sur, par exemple, le traitement des violences ou la culture du viol. Il y a une façon de traiter les sujets qui peut être très problématique, ou alors la perpétuation de stéréotypes de genre. C'est vrai que là, on parle de normes de genre, mais peut-être que le terme stéréotype de genre serait plus adéquat. Avec voilà, des catégorisations dans la façon de traiter nos sujets. Par exemple, on va plus aller vers les femmes pour des témoignages personnels, des trucs un peu individuels et subjectifs, là où le point de vue expert va être représenté par les hommes aussi, comme ça. Pardon, Mathis, excuse-moi.
L'exemple même du titrage, en fait, des titres dans des articles montrent un peu ces marqueurs de normes de genre. Par exemple, sur les violences conjugales, on peut parler de crimes passionnels, ce qui est complètement problématique, justement. Et du coup, je pense que les médias qui, parfois, sont producteurs, justement, de stéréotypes comme Juliette a utilisé.
Oui, c'est ça. Et puis après, dans le cadre du crime passionnel, c'est des façons dont on va titrer, dont on va parler d'événements. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le terme féminicide, il est rentré dans les langages courants. Bah, ça a été le travail de beaucoup de militants, militantes, pour que les journaux titrent avec le terme féminicide. Et aujourd'hui, c'est le travail de beaucoup de... Il y a des chercheurs, chercheuses hein, qui se posent vraiment sur ces questions-là. Et après, il y a le travail d'autres personnes, bah, notamment journalistes, etc., qui interrogent un peu le rôle des médias dans tout ça. Pas du tout journaliste, mais quand même très intéressant. Je pense notamment au travail colossal de Rose Lamy, donc il y a le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui a sorti un livre qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, et qui interroge justement le rôle des médias et la manière dont la culture du viol et en fait les violences peuvent être un peu justifiées dans la façon dont les termes sont... Enfin, voilà, en fait, elle va vraiment montrer le poids et l'importance des médias dans le choix des termes et dans qu'est-ce que ça révèle et comment ça construit nos imaginaires autour des violences, autour, comme je disais, des féminicides, des viols, etc. Donc voilà. Et donc, nous, ce qu'on voulait interroger, c'est à la fois ça, sur le rôle des médias dans ces enjeux un peu problématiques, mais aussi dans les stéréotypes de genre, par exemple.
Pour rester sur les journalistes, vous avez en invité également Lénaïque Bredoux, journaliste à Mediapart, et elle est ce qu'on appelle gender editor, c'est-à-dire que, en gros, si jamais j'ai bien compris, elle veille au grain quant à la parité des temps de parole accordés aux hommes et aux femmes sur le site de Mediapart. On ne pouvait arriver à cette égalité du temps de parole qu'en s'imposant ça, en faisant appel au poste de gender editor.
Si je peux répondre à ça, alors il n'y a pas que la question de la parité, parce que du coup elle veille au grain, c'est vraiment ça, je pense. Mais il n'y a pas que la question de la parité, elle fait aussi attention à la façon dont sont traités les sujets Et voilà, comme je disais, il y a un peu une approche transversale de voilà, faire attention à ce qui passe, dont on parlait tout à l'heure un peu des termes pas trop, enfin, qui sont problématiques, etc. Donc je pense qu'elle a vraiment ce travail de supervision pour que les questions de genre soient justement abordées. Et oui, ah, pardon, j'ai oublié, c'était quoi votre question?
Est-ce que pour arriver à cette question justement de parité, j'allais dire à l'antenne, mais de parité dans les médias, mais également de faire attention à la manière dont on traitait les sujets, on avait forcément besoin de recourir à un gender editor. Ça ne pouvait pas venir de manière structurelle et automatique dans les rédactions, il fallait qu'on structure, quoi.
On voit aujourd'hui que non, puisque du coup, les bavures dont on parle, les erreurs dans la presse, elles existent encore aujourd'hui, elles sont extrêmement majoritaires. Et voilà, on sait aujourd'hui, la plupart des rédactions sont composées d'hommes blancs, donc forcément, c'est difficile pour la diversité dans les rédactions. Donc oui, moi, après, ça, c'est des avis, et après, ça, c'est des sujets qu'on pourra développer beaucoup plus longuement pendant notre heure et demie de table ronde avec justement Lénaïque Bredoux, où elle pourra vraiment revenir sur son poste et la manière dont tout ça s'articule et l'importance de son poste. Mais moi, j'ai tendance à penser que oui, c'est des postes qui sont vitaux aujourd'hui parce qu'ils permettent vraiment d'avoir des lunettes, en fait, une lecture des très particulière et très enrichissante, hein, parce que c'est des postes qui sont hyper intéressants, qui permettent vraiment de questionner nos pratiques. Et donc oui, moi, j'ai tendance à penser que ce genre de poste, aujourd'hui, j'espère, va être développé et qu'on en aura de plus en plus dans les prêts, dans les rédactions, etc. Et qu'un jour, ils tomberont des études parce qu'on n'en a plus besoin, parce que ça vient tellement naturellement que c'est plus nécessaire. Mais en attendant, oui, je pense que ces postes-là sont importants.
J'ai l'impression qu'on a besoin d'un gender ou d'une gender editor parce qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les rédactions que d'hommes. Est-ce que si jamais il y avait une parité qui était respectée au sein des rédactions, finalement, ce seraient des postes dont on pourrait se passer?
Même s'il y avait une parité qui était présente, est-ce qu'il ne faudrait pas justement aussi un contrôle sur tout ce qui est publication d'articles et aussi voir comment sont traitées les questions de genre, justement.
Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, même si la parité est quelque chose à rechercher, hein, que ça fait partie des axes de travail qu'on doit avoir et que ça doit être un moyen de lutte aussi, je ne pense pas que parce que, par exemple, on est femme, ça veut dire qu'on interroge forcément le genre et que, par exemple, ça veut pas dire parce qu'on est une femme qu'on est forcément féministe, quoi. Et donc, surtout en plus dans les gros médias ou des choses comme ça, on sait aujourd'hui que quand on accède à des postes de pouvoir, il y a tellement de mécaniques en lien que des fois, même si on est une femme rédactrice en chef, et ben on va quand même reproduire des biais sexistes, on va quand même reproduire des stéréotypes de genre, etc. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte. Donc, même si la parité est à rechercher, pour moi, c'est un levier parmi tant d'autres. Et ça doit être chercher la parité, mais aussi questionner les pratiques et avoir toujours ces postes de gender editor qui devraient exister, en fait, pour interroger vraiment...
Des personnes médiatrices, quoi, en fait.
Lénaïque Bredoux est journaliste à Mediapart. Vous dites depuis tout à l'heure que Mediapart est un média grand public. C'est quand même un média de niche, uniquement sur abonnement, et il faut attendre d'arriver à Mediapart pour voir ces questions de genre mises au cœur de la rédaction. Effectivement, de mon expérience, c'est les questions d'identité de genre, de féminisme, ce ne sont pas forcément des questions qui vont être abordées dans le trésor de TF1 ou en une du point, hein, pour les citer, par exemple.
Ah oui, ça c'est sûr. Après, on parlait de... En disant médias mainstream, c'est surtout les médias qui ne sont pas forcément une thématique, que ce soit féministe, transféministe. Enfin, on voyait vraiment un média qui traitait de beaucoup d'autres sujets que des sujets de lutte pour le genre ou les minorités de genre.
Oui, après, je pense que c'est possible qu'il y a un peu notre biais d'étudiante qui fasse qu'on a peut-être parlé de Mediapart comme un média grand public, alors que c'est vrai qu'il reste un peu de niche. Après, ça reste quand même un média grand public dans le sens où il touche quand même une grande population et on n'est pas sur un média spécialisé vraiment comme Sansord qu'on citait tout à l'heure, qui là vraiment touche une niche de personnes déjà féministes, etc. C'était plus dans le sens ça, en fait. On voulait parler d'un média qui ne vise pas spécialement que des personnes féministes. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de gender editor de Lénaïque Bredou, c'est le seul qui existe actuellement en France. Il n'y en a pas d'autre qui a été créé, et quand il a été créé, c'était, enfin, peut-être qu'entre-temps, il y a quelques presses qui se sont munies de ça, mais je n'en ai pas entendu parler. Et à l'époque, c'était vraiment le tout premier poste ancré en France. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est des postes qui existent déjà depuis plusieurs années. Et donc, voilà, c'est vraiment cette nouveauté dans le poste qu'on avait envie de questionner, et du pourquoi, du comment, de pourquoi c'est important, pourquoi le poste de gender editor.
Mais effectivement, je posais cette question, puisque de manière générale, quand on questionne le genre dans les médias très grand public, tout un pan de la société a trouvé la parade, qu'on retrouve d'ailleurs énormément sur Twitter, avec un mot très très dépréciatif pour questionner, qui cible vraiment les personnes qui questionnent les questions d'identité de genre, mais de féminisme de manière générale, mais également d'écologie. Je veux bien sûr parler du mot woke, le wokisme. Comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre et sensibiliser sans se retrouver une nouvelle fois un peu mis au banc, mis sur le côté, déprécié par une certaine partie de la population française?
Très bonne question. je ne sais pas si Mathilde, tu as une réponse à ça. J'en sais rien, dans le sens où... je pense qu'en tant qu'étudiante sur le genre, on fait partie des wokistes de premier rang. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Hein. C'est du travail sur le long terme, et c'est de la pédagogie, c'est essayer de... moi, en tout cas, ça passe par l'organisation d'événements comme la table ronde qu'on va faire jeudi prochain, avec l'espoir que ça ramène, même si dans le lot, il y a des chances qu'en effet, il y ait déjà des personnes concernés par les sujets, peut-être que il y a une amie, un ami d'une personne qui va venir et qui va découvrir vraiment tous ces sujets-là, et peut-être que ça va faire germer quelques questions à ce propos. Voilà, donc moi c'est vraiment, pour moi c'est du travail sur le très long terme, et malheureusement je pense que la stigmatisation de wokistes, j'ai un peu fait le deuil que ça arrivera forcément. Comme vous l'avez dit, c'est une parade qui en fait empêche le débat. Donc à partir du moment où on a accepté que c'était une parade et qu'il fallait juste la contrer, c'est plus facile.
Ce travail de sensibilisation que vous allez faire avec cette table ronde, il y a beaucoup de... il y a quelques collectifs de journalistes femmes qui luttent aujourd'hui contre l'invisibilisation des femmes dans la profession et pour sensibiliser le grand public à l'invisibilisation des femmes dans les médias et dans les rédactions. Par exemple, je pense à Prenons la Une, Femmes journalistes de sport, etc. Vous vous inscrivez, vous aussi, dans cette démarche-là?
Alors, j'espère en tout cas. Je ne suis pas journaliste, mais je suis bénévole à Radio Campus Rennes depuis plusieurs années, et donc j'ai mon émission là-bas, et c'est vraiment à travers ma propre expérience des médias, donc j'étais service civique, etc., que j'ai vraiment eu envie de me pencher sur la question de la représentation du genre dans les médias, et c'est notamment moi pour ça que j'avais envie d'organiser cette table ronde. Et en fait, moi, en tant que bénévole à Radio Campus Rennes, c'est vraiment des sujets qui me passionne et sur lesquels je travaille beaucoup. On a créé une commission contre le sexisme à SILAB, donc Radio Campus Rennes, et on s'inspire beaucoup du travail de Prenons la Une, qui est vraiment top. On a fait une formation avec une journaliste de Prenons la Une qui nous a vraiment expliqué tous les biais sexistes, tous les fondements un peu dans les pratiques journalistiques et comment remettre en question ces pratiques, et c'était vraiment passionnant. Je recommande très chaudement à tout le monde d'aller suivre leur page Instagram. Elles sont actives, un peu moins en ce moment, mais il y a quand même pas mal de contenu assez intéressant. Sur leur site, il y a aussi beaucoup d'informations. De la même manière, j'invite pas mal de personnes à suivre le travail de l'association des journalistes lesbiennes, donc AJL, donc avec Alice Coffin notamment, qui fait un super travail. Il y a pas mal de structures et d'organismes qui font un super taf sur les questions de journalisme et de sexisme.
Mathilde Ognaux, peut-être une remarque?
Je pense qu'on essaie de faire au maximum là-dessus, sur déjà on espère ramener du monde sur cette table ronde et pouvoir, c'est vrai, comme dit Juliette, poser des questions et puis essayer de sensibiliser ou juste questionner un peu plus. Et je ne sais pas si on est au même pied que les collectifs, ces collectifs-là, mais on essaie de faire un peu, de mettre notre petit grain de sable dans cette lutte.
Oui, et puis... Pardon, vous avez dit quoi ?
En tout cas, pour donner de la légitimité au travail de ces collectifs, donc pour les reciter, prenons la Une, par exemple, mais aussi Femmes journalistes de sport, je vais apporter un chiffre qui a été publié par l'UNESCO courant 2021. Près de 3 femmes journalistes sur 4 affirment avoir été victimes de violences en ligne et 20% d'avoir souffert du prolongement de ces attaques dans leur vie réelle, selon donc une étude menée par l'UNESCO pour l'éducation, la science et la culture.
Eh bien oui, malheureusement le sexisme dans les médias est un fléau, enfin dans les rédactions, etc. Enfin pas que dans les rédactions, parce que du coup là c'est à l'extérieur, mais là vous parlez de harcèlement ou de cyberharcèlement, mais voilà, le sexisme dans les médias, on sait que c'est une catastrophe aussi. On a l'exemple très connu de la Ligue du LOL, mais par exemple à échelle plus, enfin un peu, il y avait j'arrive plus à trouver mes mots, c'était Entendu à la rédac, donc toute une enquête sur le sexisme dans les rédactions qui était menée par nous toutes, avec donc des témoignages de sexisme vécu dans les rédactions, etc. Donc c'est une enquête qui est assez édifiante, hein. Les témoignages sont vraiment terribles, et il y a énormément de rédactions qui ont été citées, mais quand je dis énormément, c'est vraiment, je ne sais plus combien, mais il y a beaucoup, beaucoup de rédactions qui ont été citées, et notamment Radio Campus. Donc c'est, je ne le dis pas pour taper, parce que moi-même je suis bénévole dans la Radio Campus, mais dans le sens où en fait tout le monde est concerné par le sexisme, toutes les rédactions sont concernées par le sexisme, qu'on soit une radio asso ou une énorme structure qui à Paris par exemple. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de remettre toujours les pratiques journalistiques en question et de questionner ces pratiques, quoi. Et on n'a pas trop parlé, on a parlé surtout de l'ENAIG et donc un peu de Sandstorm, mais du coup, c'est Juliette Cotin, donc de Base Voices, qui va animer la conférence. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, elle a une expérience de journaliste, notamment dans de la presse locale, etc. Et donc, je pense que voilà, son expérience va être extrêmement enrichissante pour cette table ronde. Je tenais à le préciser parce que je pense que son travail va être vraiment super. J'ai vraiment hâte de voir. Enfin, on est en contact avec elle, évidemment, mais j'ai vraiment hâte de voir le rendu final de cette animation. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Juliette Seyé et Mathilde Degnaud, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes donc toutes les deux étudiantes en master d'études sur le genre à l'Université d'Angers, et la table ronde Genre et Médias aura lieu le 24 mars à 18h30 à La Parenthèse à Belle-Beille. Vos invités, Lénaïc Bredoux, responsable des questions de genre à Mediapart, Clémentine Labrosse et Paola Séraphin pour Sensord Magazine, et enfin Juliette Cotin de Babes Voices. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
La couleur, l'aube du troisième soleil sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours dans l'Optimiste et nous sommes actuellement de retour dans le studio avec Sophia. Salut Sophia.
Salut Hugo.
Sophia, tu t'es rendue au 4, l'espace culturel de l'Université d'Angers, jeudi dernier pour voir le film « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». La projection a été co-organisée par l'association Femmes d'ici et d'ailleurs dans le cadre du mois du genre de l'Université d'Angers, duquel Radio Campus Angers est partenaire. Alors Sophia, qui est cet homme qui répare les femmes?
Alors c'est le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais et militant de droits humains. Ce documentaire réalisé par Thierry Michel et Colette Breikman retrace son parcours et son combat inlassable pour soigner et accompagner les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Son engagement humanitaire lui a valu entre autres le prix Nobel pour la paix en 2018. Charline, la présidente de Femmes d'ici et d'ailleurs, a organisé cette projection pour mettre en valeur la ténacité et la lutte incessante de cet homme.
Nous avons pensé que c'était très important de mettre en valeur ce travail qui est mené par le docteur Mukwege notamment et toute son équipe. Déjà, le fait que ce soit un homme admirable qui se bat justement pour lutter contre les violences, c'est vraiment la chose qui nous paraissait la plus importante de mettre ça en valeur. C'est vraiment le rôle de cet homme-là qui, au péril de sa vie, se bat pour celle des autres. Nous, on est sans voix en fait, en voyant ce que lui peut faire.
Et d'ailleurs, le docteur Denis Mukwege s'est formé à l'Université d'Angers pour sa spécialisation en gynécologie, Sophia.
Oui, tout à fait. Mais il a choisi de revenir au Congo, son pays natal, malgré le fait que ce pays soit en guerre. En 1996, l'hôpital où il travaille est la cible d'une attaque brutale. Et donc, pour sa sécurité et celle de sa famille, le docteur Mukwege déménage en Europe. Il raconte dans le film qu'à ce moment-là, les femmes congolaises ont commencé à se réunir et mettre de côté leurs économies. Elles voulaient en effet que le docteur revienne et donc lui payer le billet d'avion. Le docteur donc confie alors à la caméra qu'il aurait très bien pu vivre aisément en Europe. Mais cette mobilisation lui a fait vraiment comprendre où était sa place dans le monde, où était sa mission. L'un des moments le plus touchant du film pour moi, c'était vraiment de voir l'accueil très chaleureux que Denis Mukwege reçoit avec sa famille à l'aéroport congolais à son arrivée, parmi des chants de joie et les applaudissements d'une foule vraiment très émue et très reconnaissante. Denis Mukwege décide alors de fonder à Bukavu, sa ville natale, l'hôpital de Panzi. Et c'est ici où lui et son équipe seront témoins de violences indicibles qui se passent sur le corps des femmes et de très jeunes filles malheureusement. Si vous souhaitez regarder ce film, donc sachez que même si on n'y voit pas directement des scènes de viol, certaines images peuvent vraiment être très dures à regarder, comme nous le dit d'ailleurs Adélaïde, une spectatrice.
Les images des petits qui venaient à l'hôpital terrorisés, les photos même des morts, etc. pendant la guerre. Et puis bah, parfois aussi quand même les mots, les médecins qui disaient qu'une jeune femme comme ça, elle pourrait plus jamais avoir une vie sexuelle normale, alors que la jeune fille en question, elle a 8 ans quoi.
Et ce film montre une réalité crue et documentée, mais par contre, il lance aussi un message d'espoir.
Oui Hugo, et un autre moment qui m'a donné vraiment les frissons, c'est de voir en effet les jeunes filles guéries de leurs blessures génitales se réunir dans une salle de l'hôpital pour partager leur vécu. Il y en a qui ont tout perdu parce que parfois au-delà du viol subi, leur maison a été pillée et leur famille assassinée. Mais on voit par exemple aussi une jeune fille très souriante qui dit qu'elle va reprendre ses études pour devenir médecin parce qu'elle a été inspirée par le travail du docteur Mukwege. Ou encore une autre femme qui a récolté de l'argent en vendant des sacs qu'elle cousait pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle a donc pu acheter un terrain où elle construit sa maison et cultive aujourd'hui ses légumes. Ceci est possible parce qu'au-delà des soins, l'hôpital de Panzi, fondé par le docteur Mukwege, fournit aussi une aide psychologique, économique et juridique aux victimes.
Ces histoires d'émancipation, en tout cas, donnent un vrai message d'espoir et sont vraiment encourageantes pour la suite.
Oui, complètement. On sort de la salle et on a vraiment envie de s'engager tout de suite dans une association féministe, car ici aussi, les violences faites aux femmes sont peut-être moins visibles, mais tout aussi brutales, comme le dit Charline.
Beaucoup de femmes ici aussi subissent des violences qui sont inacceptables. Par exemple, une violence que nous, on peut subir ici, c'est aussi la précarité menstruelle. C'est une forme de violence. Quand on est atteinte dans sa dignité et qu'on ne peut pas aller au travail parce qu'on n'a pas de serviette hygiénique, par exemple, c'est aussi une forme de violence. Et nous, on agit à ce niveau-là en proposant, par exemple, sur la ville, des armoires solidaires d'hygiène.
J'aimerais donc conclure avec un message d'espoir, avec les paroles du docteur Mukwege lui-même, celles qu'il dit à une jeune fille hospitalisée. Eux, ils t'ont détruite, mais toi, tu sortiras plus forte.
Merci beaucoup, Sophia, pour cette chronique. C'était une projection réalisée dans le cadre du mois du genre, organisée par l'Université d'Angers.
Tout à fait.
Et c'est la fin de cet optimiste sur cette magnifique chronique. Merci beaucoup, Sophia. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés lors de notre traversée. On se retrouve demain, même heure sur le Centre FM, pour parler demain de l'exposition florale. On change de sujet. Ce soir à 20h, retrouvez Dernière Séance, puis votre rendez-vous Rock Electric Troubles et toujours à la prog musicale bien quali de notre chère Étienne. Merci encore à lui. À demain sur le Centre FM et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Écoutez l'émission sur www.radiocampusangers.com.